Alors, il est très frais. Il ne pèse que 2 tonnes 7. Il a une envergure de 72 mètres. C'est plus qu'un Boeing 747 qui traverse l'Atlantique, qui pèse plusieurs centaines de tonnes. Il était parti plus d'un an plus tôt, le 9 mars, pour un tour du monde qu'il a réalisé en 16 escales. Et il a une particularité, c'est qu'il ne consomme pas une goutte d'énergie fossile. Il n'y a pas une goutte de pétrole dedans. Il n'y a pas une goutte de charbon. Et il ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Il s'appelle, bien entendu, vous le connaissez, Solar Impulse, version 2. Et c'est Bertrand Piccard, avec un autre ingénieur de l'École Polytechnique de Lausanne, qu'il a conçu. C'est un projet de plus de 12 ans qui a démarré en 2003. Un projet du génie humain, mais le génie humain, on sait qu'il est inspiré par Dieu, puisque Dieu a créé l'homme à son image, donc c'est pour ça que l'homme peut être créatif. Et il a réalisé l'impossible, ce qui semblait carrément impossible il y a encore quelques années. Souvenez-vous quand même, il y a 150 ans, les humains voyaient les oiseaux et les insectes voler, et ils disaient « on aimerait bien voler un jour ». Et pendant des siècles et des siècles, l'homme a essayé de voler. Finalement, l'avion est arrivé, et maintenant c'est l'avion solaire. Ce qui semblait impossible, eh bien, est arrivé. Et ça me rappelle cette citation de Charlie Chaplin. J'ai pas le retour écran, c'est normal.
Oui.
Bon, alors je vais me payer un petit torticolis. Voilà ce que disait Charlie Chaplin. Il faut tendre vers l'impossible. Les grands exploits à travers l'histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible. Et pour nous chrétiens, tous les jours, on a à conquérir des défis impossibles. Et aujourd'hui, la méditation qui va nous concerner, eh bien, va traiter de l'impossible. Et on va voir comment faire face à l'impossible. On va voir la multiplication des pains, le quatrième signe de Jésus. À propos, vous savez qui a dit « impossible n'est pas français » ?
Napoléon.
Napoléon, exactement. C'est Napoléon qui a dit « impossible n'est pas français ». Alors, Picard est suisse, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder ce magnifique texte. Un texte qui est très simple, mais un texte qui est extrêmement riche en enseignement. Et pour bien comprendre ce texte, j'aimerais quand même revenir sur les caractéristiques des signes de l'évangile de Jean. Ça me paraît important. Je n'étais pas à la première séance lors du séminaire d'église, je ne sais pas ce qui a été dit, mais c'est important de préciser le sens de ces signes, parce que ce n'est pas juste des miracles ou des choses qui arrivent. Il y a tout un sens derrière la pensée de l'auteur, l'évangéliste Jean, qui est inspiré par le Saint-Esprit, a beaucoup de choses à nous dire. Déjà, donc, que ces signes, la première de ces caractéristiques, c'est que ces signes de l'évangile de Jean, ils sont rares. Vous savez combien il y en a au total dans l'évangile de Jean ? Il n'y en a que 8. Alors on parle de 7 signes pour croire, parce qu'il y a 7 signes donc, qui sont donnés dans le ministère public de Jésus, plus 1 à la fin du ministère, lorsque Jésus est avec ses disciples au bord du lac de Tibériade. Donc tout ça, ça sera traité dans les études suivantes. Mais ces signes sont rares. Il y a une pénurie. Et pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie ? Il y a encore une fois, il y a un sens pédagogique dans la pénurie. Vous savez, par exemple, la première firme mondiale en termes de capitalisation boursière, c'est Apple, voilà. Apple organise des pénuries pour créer une envie, pour créer quelque chose autour de son produit. Vous voulez acheter un iPhone qui sort, il n'est pas disponible. Donc, il crée une pénurie. Et je pense que, quelque part, il y a cette pénurie dans l'évangile de Jean pour mettre l'accent sur quelque chose d'important. Jésus a fait 35 miracles reportés dans les évangiles. Il n'y en a que 8 dans l'évangile de Jean. Et encore sur les 8, il y en a 6 qui sont originaux, qui ne sont dans aucun autre évangile. Et il se trouve que celui-là particulièrement, c'est un miracle, un signe qui est très spécial, puisqu'il se retrouve dans les 4 évangiles, d'où son importance. Si le Saint-Esprit a permis que la multiplication des pains soit exprimée dans les 4 évangiles, là aussi il y a des choses à nous dire. La deuxième caractéristique, c'est que ces signes sont des signes pour croire. Et ça, il faut bien différencier le signe du miracle. Un miracle, c'est quoi ? C'est quelque chose d'extraordinaire qui intervient à un moment donné. Mais des miracles, il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Dans l'Ancien Testament, on voit les Égyptiens, les magiciens égyptiens font des miracles. Voilà, donc le miracle ne veut rien dire en lui-même. Alors que le signe de l'évangile de Jean, il a vraiment un sens. Il a vraiment un sens qu'il faut essayer de trouver. Et l'un des sens, c'est que ces signes ont pour but de croire. Hein, je vous ai cité le verset de Jean 20. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Donc c'est ça le but. C'est pas juste nous éblouir, nous en mettre plein la vue. C'est le but final, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ces choses ont été écrites. Donc le but, c'est que chacun de nous puisse être au clair de qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Et le deuxième but, ces choses ont été écrites afin, la suite du verset nous dit, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Hein, donc je vous invite à prendre la référence, Jean 20, 31. Et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom, c'est la deuxième partie du verset. Hein. L'évangile de Jean aussi, en Jean 3, 36, lorsque, à la suite des entretiens de Jésus avec Nicodème, Jésus dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Hein. » Littéralement, la Bible du Semeur nous dit « Celui qui place sa confiance. » Celui qui a le Fils, c'est celui qui place sa confiance en Jésus. Donc, si chacun de nous place sa confiance en Jésus et croit, il a la vie. Hein. C'est un encouragement à plus toujours placer sa confiance dans le Fils de Dieu. C'est ça le sens et le but de ces signes. Alors, avoir la vie, c'est quoi ? Eh bien, avoir la vie, c'est à la fois la vie éternelle, donc la promesse d'être au ciel avec lui pour toujours, mais également, c'est la vie abondante. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, lorsque Jésus se définit comme le bon berger, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance ». Donc, je résume, le signe a été écrit pour que nous puissions croire. Mais dans ce mot « croire », il y a un double fond. Il y a « croire » pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour les incrédules qui viennent à Jésus. Donc, le signe est pour l'évangélisation, amener des âmes à Christ. Mais il y a également des révélations supplémentaires pour ceux qui sont déjà en Christ. C'est ce que j'appelle le double fond. Il y a toujours... Dieu agit toujours à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr attirer celui qui ne croit pas, mais également renforcer la foi de celui qui croit. Et quel est le but ? Eh bien, le troisième but, c'est que nous soyons heureux. Tout à l'heure, Gilbert a cité ce verset de Jean 20, 19. Ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, donc ceux qui croient, on est toujours dans croire, eh bien, ils sont heureux. Il y a une bénédiction de bonheur pour, derrière ces signes, derrière la compréhension de ces signes, d'où l'importance de ces signes. C'est pour ça qu'on les étudie, c'est que non seulement ils permettent de croire, d'avoir la vie, mais également ils nous permettent d'être heureux. Est-ce que vous voulez être heureux ? Qui ne veut pas être heureux ? Levez la main. Voilà. Le monde entier cherche le bonheur. Eh bien, le bonheur, parfois, il est dans les petites choses, et c'est ce qu'on va voir. Donc ces signes de Jean ont pour but de provoquer la foi, premièrement, et de nous rendre heureux. Deuxième point. Voilà dans quel état d'esprit il faut qu'on puisse aborder ce signe de l'évangile de Jean. Donc vous comprenez la différence entre un signe et un miracle, et l'objectif c'est de croire et de pouvoir se donner les moyens d'être heureux. Voilà, donc on va faire la lecture maintenant de ce passage. Donc un passage qui est très simple, je vous invite à ouvrir vos Bibles, Jean chapitre 6, verset 1. On va lire la multiplication des pains. Alors là, je l'ai pris dans la version Genèse 79, donc je vais lire celle-ci, parce que la mienne, c'est une colombe, elle sera un peu différente. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Voilà, donc ensuite, la suite du texte va nous parler de l'enseignement sur le pain de vie. Je n'y reviens pas parce qu'il a déjà été traité. Donc, comme je disais, ce signe n'est pas là pour faire du spectaculaire, même si ça a été spectaculaire. Mais le but, c'est d'amener un enseignement beaucoup plus profond sur l'enseignement de Jésus. Et on va prier pour que Dieu vraiment ouvre notre cœur, qu'il puisse nous aider à comprendre vraiment tout ce qu'il y a à saisir de ce texte. Notre Dieu, notre Père, c'est en toi que nous nous confions maintenant. C'est ta parole que nous avons citée, que nous allons creuser. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous dire, toutes les richesses de ce qu'il y a dans ce passage, dans ces paroles que tu as données à tes disciples. Amen. Alors donc je disais un texte facile à comprendre, mais il y a des bénédictions spirituelles extrêmement nombreuses ici. Tout à l'heure on a pris la scène ensemble, un tout petit morceau de pain. Eh bien le but ce matin c'est que nous puissions nous nourrir. Ça tombe bien le texte multiplication des pains. Nous puissions nous nourrir spirituellement. Cette nourriture spirituelle dont on a toujours besoin. Et j'aimerais avec vous souligner 9 points d'intérêt. Alors ce ne sera pas très long, on verra, on va suivre le texte et vous verrez que dans ce texte, il y a vraiment 9 pépites. J'en ai relevé 9 qui sont vraiment essentielles. Tout d'abord, pour commencer, un premier élément, donc bien saisir dans quel contexte se situe ce passage. Alors la dernière fois, le dernier signe que nous avons étudié en Jean 5, c'est la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Et dès après cette guérison commencent les premières controverses. C'est-à-dire qu'il guérit, Jésus guérit un paralytique le jour du sabbat, les pharisiens ne sont pas contents. Et donc Jésus donne cet enseignement capital, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Donc Jésus s'assimile à son père. Jésus commence à nous faire voir dans son identité que Jésus est Dieu. Voilà, et c'est le démarrage de la polémique, c'est le démarrage de la cristallisation de l'opposition qui va se poursuivre dans la suite du chapitre 6 que nous avons lu, lorsque Jésus va parler à un moment donné du pain de vie. Autant le miracle de la piscine de Bethesda va attirer des foules à lui, on a vu au début du chapitre que des foules le suivaient parce qu'ils voyaient les miracles. Et à la fin du chapitre 6, après que Jésus ait été clivant par ses paroles, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner, parce que ça va être trop dur. Même malgré le miracle, eh bien, ça va être trop dur pour eux. En fait, Jésus, il n'est pas venu pour rassembler. Si Jésus devait se présenter aux élections, il ne gagnerait jamais en France, parce que pour gagner aux élections, il faut rassembler là, il faut faire plein de compromis. Jésus, il n'est pas dans le compromis, il est dans le clivage, plutôt. Jésus n'est pas venu pour rassembler, il est venu pour transformer les vies. Et c'est ça qu'il va faire donc dans ce passage, il continue à le faire, parce qu'il s'affirme comme le Fils de Dieu. Le deuxième point du contexte que je voulais signaler, c'est le manque. Quel est le contexte qui va amener un manque? Eh bien, on voit que Jésus, un tout petit peu avant, il a perdu son ami Jean-Baptiste, qui a été décapité. Et donc il se retire dans un lieu pour prier, mais la foule vient à lui parce qu'elle a besoin de lui. Il les voit comme des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Et là Jésus est ému de compassion et il sort de son silence et il va retourner à son appel primitif. Et il va prendre du temps pour la foule. L'enseignement est si dense, si riche, que la foule est captivée. Et là c'est le soir, ils sont sur la montagne. Les gens sont tellement nourris spirituellement qu'ils en avaient même oublié leurs besoins physiques. Ils se retrouvent donc là, 5000 hommes mâles, donc on peut penser que plein sont venus avec famille et enfants. On considère qu'il pourrait y avoir autour de 20 000 hommes sur cette montagne alors que Jésus enseigne. Voilà, ce n'est pas 5000 hommes réellement qui régnent, c'est 20 000 personnes qu'il nourrit avec les enfants. Et ici, c'est la première des multiplications des pains. Vous savez que dans l'Évangile, il y a deux multiplications des pains. Celle-ci, c'est la première. Comme je vous ai dit, elle est relatée en parallèle dans les autres Évangiles, et on va pouvoir donc voir un peu les comparaisons. Le troisième point que je voulais signaler, c'est que le chapitre 6 commence par « après cela ». Après cela. Et on verra dans ce chapitre 6, regardez dans vos Bibles, le « après cela », eh bien, chaque mot va être important. « Après cela », c'est après tout ce qui s'est passé. Il faut comprendre ce chapitre dans son contexte. Donc après cette guérison du paralytique, etc. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, les gens le suivent parce qu'ils voyaient les miracles. Les gens, en fait, le suivent par intérêt. Ils ne le suivent pas parce qu'il est le Fils de Dieu, ils le suivent parce qu'ils se disent « je vais obtenir une guérison, je vais obtenir quelque chose ». Et là, on a une première application pour nous. Lorsqu'on suit Jésus, lorsqu'on vient au culte le matin, lorsqu'on suit des études bibliques, lorsqu'on lit la Bible, quelles sont nos motivations? Est-ce qu'on le fait par intérêt ou est-ce qu'on le fait par amour pour notre Seigneur? Vous voyez, là, les gens le suivaient par intérêt. Et c'est pour ça qu'à la fin du chapitre 6, il y a beaucoup de gens qui vont partir parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Jésus demande quelque chose de très dur, de manger son corps, de boire son sang, ça va être trop dur pour certains. Et Jésus leur dit, cette parole est dure, si vous voulez partir, allez-y. Et donc là, déjà, on a une première application pour nous. Quel est notre intérêt, finalement? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Quelles sont nos motivations pour suivre Jésus? Est-ce qu'on est des drogués au miracle? Est-ce qu'on suit Jésus parce que de temps en temps, on fait une petite prière, Jésus répond, super, merci, je te suis. En fait, si c'est ça, si on suit Jésus par intérêt, à un moment donné, Jésus ne va pas répondre à nos prières. Parce que lui, il a un plan à long terme pour nous. Et donc, on risque de se décourager et de dire, bah, Dieu m'abandonne, Dieu ne répond pas. Pourquoi si? Pourquoi ça? On pose plein de questions parce qu'on suit Jésus par intérêt. Si on suit Jésus par amour, on sait qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Donc si c'est difficile, si le ciel est fermé, si les réponses ne viennent pas, on sait que Jésus est un Dieu d'amour qui a un plan à long terme pour nous. Vous voyez la différence? Donc ce verset 2 est très important. Les gens le suivaient parce qu'ils voyaient les signes miraculeux. Et ces mêmes gens vont partir à la fin du chapitre 6. Et enfin, dernier élément de contexte à signaler. Dernier élément de contexte, c'est quelle est la place finalement, de Jean 6 dans la vie de Jésus. Eh bien, c'est la première fois dans cet évangile que c'est c'est le quatrième signe, et c'est le premier qui a sa place dans les autres évangiles. Je vous ai dit qu'il y a 6 signes sur 8 qui sont originaux de Jean, qui ne sont que dans l'évangile de Jean. Les 3 premiers qu'on a vus, qui sont les noces de Cana, l'eau changée en vin, la guérison du fils d'officier royal, le paralytique de la piscine de Bethesda, ne se trouve que dans Jean. Donc là, c'est la première fois qu'on voit le signe qui est commun aux autres évangiles qui sont rapportés par Matthieu, Luc et Marc. Et aussi, c'est très important, c'est le premier des signes qui va impliquer directement les disciples. Ça va être même le seul pendant son ministère public. Et là, le point important, c'est que leur foi va être mise à l'épreuve. Souvenez-vous, lorsqu'on était les noces de Cana, qui était impliqué dans le signe? C'était l'ordonnateur du repas. C'est Jésus qui avait challengé l'ordonnateur du repas, il avait rempli les jarres, il avait dit « remplissez les jarres et puisez ». Donc les disciples étaient observateurs. Lorsque le fils d'officier royal a été guéri, qui est-ce qui a été impliqué? C'est l'officier royal. Les disciples sont spectateurs. Ils apprennent, ils écoutent. Lorsque le paralytique à la piscine de Bethesda a été guéri, qui est impliqué? C'est le paralytique. Les disciples regardent. Donc, dans la méthode pédagogique de Jésus, il a d'abord donné des enseignements, il a amené ses disciples avec lui, il les a amenés à observer, et là, on arrive au quatrième signe, et au quatrième signe, Jésus dit, maintenant, c'est vous qui êtes concernés. Vous comprenez? Et derrière les disciples, eh bien, on peut se placer, nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, on va observer plein de choses, on va assister à des guérisons, à des miracles, à des mouvements du Seigneur, comme celui de nos frères et nos sœurs qui ont été miraculeusement préservés dans leur accident. Et un jour, on va se retrouver, nous, disciples, dans la position des disciples de l'évangile de Jean. C'est-à-dire devant un défi impossible, devant une montagne, quelque chose qu'on n'arrive pas à escalader. Et à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Voilà le contexte de l'évangile de Jean et de ce miracle. Alors, le deuxième élément que je voulais signaler, c'est ce texte-là. Hein. Donc, je vous présenterai à chaque fois le texte qui sera souligné et on va voir l'application. Hein. Donc, le premier élément, c'est bien comprendre le contexte qui a amené cette multiplication de pains. Le deuxième élément dont je voulais parler, c'est ça. Donc, il y a une grande foule qui vient à Jésus. Il y a une situation impossible. Souvenez-vous, ils sont 20 000 au total. Et Jésus va chercher ses disciples. Il va les impliquer. Et le deuxième élément, c'est ce que j'appelle le principe de la subsidiarité. Alors, c'est un mot un peu compliqué. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui sont une association d'entrepreneurs et chefs d'entreprise et dirigeants chrétiens, hein, il y a 4 000 personnes à peu près en France. Ça va de quelqu'un qui travaille en indépendant comme moi, jusqu'à Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin. Voyez. Et donc, au sein des EDC, cette année, notre thème clé qui est traité au cours de l'année, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est quoi? Alors, en gros, c'est le fait de faire quelque chose au bon niveau. C'est-à-dire, c'est l'anti-principe pyramidal. Vous savez, les sociétés, les entreprises où tout se décide en haut, où on ne peut pas acheter un rouleau de papier toilette sans avoir la signature du PDG, c'est l'anti-subsidiarité. C'est le système pyramidal. Voilà. Donc, Jésus, à chaque fois qu'il peut faire quelque chose, il le fait après certaines étapes. Par exemple, notre Église fonctionne sur ce principe-là. Les anciens ne font pas tout. Les anciens s'occupent du spirituel, et il y a plein de gens qui sont en responsabilité pour l'école du dimanche, on a vu l'organisation de la fête de Noël, et les gens qui organisent la fête de Noël, ils ne sont pas sans arrêt en train d'appeler les anciens en disant « Tiens, j'avais pensé rajouter 10 minutes de plus à ce programme, est-ce que tu me donnes l'autorisation ?» Il est autonome et responsable. Eh bien, Jésus applique ici ce principe de subsidiarité qui est un peu voisin de ce qu'on appelle la délégation aussi. On délègue au bon niveau ce qu'il faut faire. Et Jésus, encore une fois, après avoir formé ses disciples, il va leur faire mettre la main à la pâte, si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, deux choses. Il va les challenger. Il va leur poser des questions. Où est-ce qu'on va acheter? Et ça, c'est une mise à l'épreuve. Donnez-leur vous-même à manger. Hein, c'est dans un autre évangile. Hein, alors je vous ai dit que c'était en parallèle dans les trois autres évangiles. Donc, il va les mettre à contribution parce qu'à un moment donné, ils ont observé et maintenant, il faut qu'ils agissent. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils agissent? Bah, tout simplement parce que Jésus a un ministère limité, il sait qu'il va partir et il sait que le développement de l'Église va dépendre de ces gens-là. Donc ces gens ont besoin d'apprendre quelque chose. Comme nous, dans la vie chrétienne, on commence dans la vie chrétienne, on ne sait rien, et à un moment donné, bah, on prend nos responsabilités dans l'Église, dans la famille, parce qu'il faut mettre la main à la pâte. On ne peut pas rester des enfants, comme dit l'Épître aux Hébreux, nourris au lait spirituel. Donc, Jésus va mettre ses disciples à contribution et il va essayer de les impliquer. Troisième point que je voulais soulever, il va mettre Philippe à contribution. Alors, pourquoi est-ce que Jésus, à votre avis, va solliciter Philippe? Pourquoi Philippe en particulier? Est-ce que vous avez une idée? Pas d'idée. Alors, tout simplement, on est où, là, à la multiplication des pains? On est au nord du lac de Galilée, au bord du lac de Galilée, et on est assez proche d'une ville qui s'appelle Bethesda. Bethsaida, pardon. Et Philippe est de Bethsaida. Donc, en fait, Philippe, c'est le régional de l'étape. Il faut trouver du pain, donc Philippe, il connaît l'adresse d'Auchan, de Leclerc, d'Intermarché, et pas de problème. Donc, Jésus s'adresse à Philippe. Philippe, où est-ce qu'on va leur donner à manger? Et là, il y a une chose qui est intéressante. C'est la différence de perspective entre Jésus et Philippe. Alors, quand je parle de Philippe, ce n'est pas pour accuser Philippe, c'est parce que nous, on pourrait se mettre à la place de Philippe. On pourrait être Philippe. Et donc, Jésus va solliciter Philippe. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, Philippe, il regarde aux choses terrestres. Il a les yeux fixés sur la terre. D'accord? Donc, il regarde 200 deniers. Ils rassemblent, Judas tenait la bourse, ils ont dû faire un point, on a combien dans la bourse? 200 deniers, pas mal 200 deniers. 200 jours de travail d'un ouvrier, c'est pas mal quand même. C'est une année de salaire d'un ouvrier, ils ont 20 000 euros. Mais bon, il y a 5 000 hommes à nourrir quand même. Hein. 20 000 personnes à nourrir. Donc il fait le point avec Philippe, et Philippe regarde aux choses terrestres, il regarde ce qu'il a dans la bourse, il regarde ce qu'il faut, il dit « c'est pas possible ». Voilà, c'est impossible. Et donc, la réaction de Philippe, c'est « on a ça ». Et vous remarquerez que dans la multiplication des pains, Philippe ne donne rien. Les 200 deniers, ils ne sont pas utilisés. C'est-à-dire, Philippe, il dit « j'ai, mais je n'ai pas assez, donc je garde, je ne donne pas ». Il n'a rien donné, Philippe. Ils auraient pu associer les 200 deniers aux 5 pains et aux poissons. Ça aurait pu faire une plus grosse cagnotte, mais même pas. Donc Philippe, il regarde aux choses terrestres. Il regarde à la pénurie. Il n'y a rien, il n'y a pas assez. On est foutu. Combien de fois, nous, devant quelque chose d'impossible, on dit « c'est foutu ». On baisse les bras. Jésus, il regarde où, lui? Où est-ce qu'il regarde Jésus? Il regarde en haut. Deux fois, c'est dit dans le texte. Premièrement, il lève les yeux, il revoit la foule. Deuxième chose, il lève les yeux pour rendre grâce. Jésus, il a un regard fixé au ciel et à ses possibilités infinies. Vous voyez la différence de perspective entre Jésus et Philippe? C'est ça qui est important. Quelle est notre perspective devant quelque chose d'impossible? Est-ce qu'on regarde à nos moyens limités ou est-ce qu'on regarde au ciel? C'est ça la différence. Et là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que dans ce texte, il y a une référence au passé. Il y a une référence au passé, je n'ai pas le temps de développer, mais les pains, c'est la symbolique des pains. Je vais peut-être avoir, si j'ai peut-être un petit moment pour y revenir. Mais vous voyez, la question que je voulais vous laisser, c'est qui est-ce qui décide finalement de ce qui est possible? Est-ce que c'est moi qui décide de ce qui est possible pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail, pour mon église? Ou est-ce que c'est mon Père qui est dans les cieux qui décide de ce qui est possible? Parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors, juste revenir sur cette symbolique quand même des pains d'orge. C'est des pains d'orge. Le pain d'orge, il faut savoir que c'est la nourriture du pauvre. C'est vraiment quelque chose qui était mangé par les classes très inférieures. Les gens qui étaient un peu aisés mangeaient du pain blanc. Donc c'est vraiment la nourriture du pauvre, c'est la première des céréales qui était récoltée au printemps. Et c'est intéressant de regarder, en fait, parce que dans ce texte, il nous est dit qu'on est proche de la Pâque. C'est que la Pâque est associée à la fête des pains sans levain. Et les pains sans levain, c'était une fête où d'abord la maîtresse de maison nettoyait le levain. Il n'y avait plus de levain dans la maison, symbole du péché. Mais c'était une fête où on agitait une gerbe, la première gerbe récoltée, qui était une gerbe d'orge. Donc, cette première céréale cette première fête donc, de pain sans levain était destinée à célébrer cela. Donc Jésus va utiliser ce pain d'orge, cette céréale disponible à ce moment-là, pour pointer finalement sur ce qu'il va dire tout à l'heure le pain de vie. Jésus va se définir comme le pain de vie. Et donc ce pain fait référence à des épisodes de l'Ancien Testament. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est l'épisode de la manne dans le Deutéronome. Pour ceux qui prennent des notes, dans le Deutéronome 8, il est parlé de la manne. Dieu nourrit un peuple extrêmement nombreux, plusieurs millions de personnes, pendant 40 ans dans le désert avec de la manne. D'accord ? Il y a deux autres références dans l'Ancien Testament. C'est la référence d'Élie. Élie qui est envoyé chez la veuve de Sarepta, donc 1 roi 17, là aussi je n'ai pas le temps de... Mais regardez chez vous, le 1 roi 17, où il est question d'Élie qui demande à la veuve de Sarepta de lui donner un petit pain. Donc Élie, le grand prophète, va prendre un petit pain, et en fait, il va permettre à cette veuve d'avoir de la farine et de l'huile qui se renouvellent. Donc on a un premier signe de multiplication. Et on aura ensuite un deuxième signe de multiplication avec Élisée, le successeur d'Élie, qui va lui aussi, quelque part, demander, prendre 20 pains d'orge et nourrir 100 personnes. Donc, Jésus, il va utiliser ces pains, finalement, qui ont été mis à disposition par un petit garçon, on y reviendra, pour faire le lien entre la manne, qui était la nourriture du peuple, et ce qu'ont fait deux prophètes, Élie et Élisée, qui, à leur façon, ont multiplié aussi des pains, mais d'une façon bien moindre, puisqu'Élie a pris un pain et il a donné de la farine. Élisée a pris 20 pains pour nourrir 100 personnes. Vous regarderez dans le texte de Élisée, c'est dans le texte de 2 rois 4, hein, et Élie donc 1 roi 17, hein, pour ceux qui prennent des notes. Donc, Jésus, en utilisant ces pains, fait référence à cet enseignement de l'Ancien Testament pour montrer que le miracle, le signe qu'il est en train de faire, a un lien avec l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament, c'est quoi ? C'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quelque chose de partiel qui annonce quelque chose de plus grand. Et Jésus dira aussi, à plusieurs occasions, Jésus dira, il y a ici plus que. Ça vous dit quelque chose, ces termes ? Il y a ici plus que. En Matthieu 12, il va parler du temple, et il va dire, il y a ici plus que le temple. Matthieu 12, 41, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12, 42, il y a ici plus que Salomon. Donc, ce miracle des pains, sa signification spirituelle, c'est en fait que Jésus va utiliser des symboles de l'Ancien Testament pour montrer qu'il les endosse et qu'il incarne par sa présence, par qui il est, finalement, tous ces symboles de l'Ancien Testament. Et c'est ça le message de Jean. Tout le message de Jean, on n'y revient pas, mais quand il dit « détruisez ce temple et je le reconstruirai », etc., eh bien Jésus endosse ces symboles, il transforme la loi de Moïse en quelque chose de plus grand et de plus nourrissant. Et c'est ce qu'il va dire à un moment donné, « je suis venu pour accomplir la loi ». Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir la loi. Et cette multiplication des pains nous montre que Jésus est vraiment le Messie, la personne qui va accomplir, finalement, les références de l'Ancien Testament que je vous ai citées. Il va accomplir à la fois la loi, la manne c'est Moïse, c'est la référence à la loi, et les autres, eh bien ce sont les prophètes, les plus grands prophètes. Donc Jésus accomplit la loi et les prophètes, et au travers de ce pain, le juif qui connaissait l'Ancien Testament ne pouvait que reconnaître la divinité de Jésus, qui accomplit au travers de ses miracles, qui fait plus qu'Élie, plus qu'Élisée, plus que Moïse, il accomplit la loi et les prophètes. Il y a plus que... Je n'ai pas le temps de m'étendre, parce qu'il y a une notion, il y a plus que Salomon, c'est la référence à la sagesse, il y a plus que Jonas, c'est la référence à la repentance, et il y a plus que le temple, référence à la tradition des pharisiens. Voilà, donc Jésus accomplit, au travers de ce miracle, cette incarnation des symboles de l'Ancien Testament. Le cinquième point que je voulais souligner, eh bien, c'est que le peu, finalement, d'un petit garçon qui met à disposition un tout petit casse-croûte, eh bien, peut devenir le beaucoup de plusieurs. Et c'est là que le miracle se produit, c'est que devant l'impossible, le possible est présent avec Dieu. Et en fait, c'est tellement flagrant qu'il y a même une abondance. Vous voyez, ils sont rassasiés autant qu'ils en voulurent. Ce n'est pas chiche, ce n'est pas petit, c'est une abondance permanente. Alors on ne sait pas comment ça s'est produit, on ne sait pas comment les pains se sont transformés, mais à un moment donné, ils ont commencé à distribuer, plus ils distribuaient, plus il y en avait. Donc le peu finalement d'un petit garçon devient le beaucoup de plusieurs. Alors il y a aussi d'autres choses intéressantes qu'on peut signaler. Ce petit passage-là qu'on lit très vite. Il les fait asseoir et il y avait beaucoup d'herbes. Ça, c'est fantastique. On peut passer 10 minutes là-dessus. Je ne veux pas le faire. Mais souvenez-vous que les gens venaient dans un état d'agitation important. Les disciples venaient de témoigner. Ils étaient agités. Ils allaient, ils venaient. Jésus les avait déjà mis à l'écart à un moment donné en leur disant « Reposez-vous ». Probablement, la foule était affamée. C'était tard. Vous savez, quand on a faim, on est en hypoglycémie, on est un peu énervé. Ben, Jésus va calmer l'agitation. Il va les mettre à l'écart. C'est un modèle ici de gestion du temps et des priorités. Parce que le besoin, c'était non seulement de manger, mais d'être apaisé, d'être au calme, de se préserver. Et Jésus va les mettre à l'écart. Il va les faire asseoir. L'évangile de Marc nous dit même par rangée de 50 et de 100. Donc ça nous montre que Jésus est un Dieu d'ordre aussi. Il les fait aligner, il les fait ranger, il est structuré, il gère bien son temps, il comprend bien le timing, qu'est-ce qu'il faut faire au bon moment. C'est vraiment un exemple pour nous. Jésus, ici en plus, donne d'autres signes messianiques qu'il est le Messie. Hein, puisque vous savez que dans les Proverbes, la sagesse est associée à la distribution du pain. En Proverbe 9,5, hein, le poème de la sagesse nous dit « Venez manger de mon pain ». Donc Jésus s'associe en même temps à la sagesse. Et puis Ésaïe 30,15 nous dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Donc Jésus, avant de multiplier les pains, il apaise tout le monde. Il les fait asseoir. Et puis les verts pâturages, ça vous rappelle quoi ? Le psaume 23. Il y a beaucoup d'herbe. On est au printemps, juste avant la Pâque. La moisson des orges est là. L'herbe pousse. Il y a de l'herbe verte. C'est confortable. Ça rappelle le bon berger. Donc tous ces signes, imaginez le juif pieux qui connaissait l'Ancien Testament. Il voit d'un coup, dans ce passage, il voit une multitude de références messianiques. Hein ? David a parlé tout à l'heure des paroles de Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus est annoncé et là, il est en train d'endosser, d'incarner ces paroles messianiques. Voilà, donc ce passage aussi, c'est deux, trois versets qui nous rappellent ce que dit le psaume 46. Hein. Parfois dans nos vies, on a besoin d'entendre cette parole. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est le message que Jésus fait passer avant de multiplier les pains. Voilà. Alors, je vais vite, le dernier point, eh bien, il y a l'action de grâce. Juste pour signaler, il y a de nombreuses références dans l'Ancien Testament aussi, que la victoire s'obtient souvent dans la louange. Comment est-ce que les murs de Jéricho sont tombés ? Quand est-ce qu'ils sont tombés ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, ils ont tourné, mais quand est-ce que les murs sont tombés ? Oui, mais quand est-ce qu'ils sont tombés ? Ils ont fait quoi pour que les murs tombent ? Ils ont crié, voilà, un cri de louange et de victoire. Ils ont, bien sûr, ils ont tourné cette fois, etc. Mais c'est le cri de louange. Et de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, Dieu demande au peuple de louer avant que le truc soit accompli. Et c'est la louange qui amène la délivrance, qui amène l'exaucement. Donc souvenez-vous-en, si vous êtes dans l'épreuve, c'est pas facile, j'en parle d'expérience, mais de louer le Seigneur dans l'épreuve. Vous êtes dans la difficulté, dans l'affliction ce matin, vous venez au culte, vous avez du mal à sortir quelque chose. Et si vous sortez une parole de louange, c'est une victoire qui sort en même temps. Voilà. Et puis, le huitième point que je voulais signaler, c'est l'économie du royaume de Dieu. On parle d'écologie aujourd'hui, mais c'est vraiment un principe écologique avant l'heure. C'est-à-dire, on a de l'abondance, c'est la réalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume d'abondance. Il y a un psaume qui dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau, toujours. On est dans l'abondance et pourtant Jésus demande d'éviter le gaspillage. Il y a une version qui dit « afin que rien ne soit gaspillé ». Ici, rien ne se perd dans la Genèse 79. Voilà. Donc il demande d'éviter le gaspillage. Et puis encore un symbole. Combien il y a de paniers en plus ? Le rab, c'est combien ? 12. C'est quoi 12 ? C'est le symbole d'Israël, les 12 apôtres, les 12 disciples, les 12 apôtres, les 12 tribus. Voilà, c'est le symbole d'Israël. Encore une fois, des symboles messianiques qui nous montrent que l'abondance, eh bien, passe par Israël, le Messie vient d'Israël, et c'est l'économie du royaume de Dieu. Ça nous donne une idée de l'économie du royaume de Dieu par rapport à l'économie terrestre, qui est une économie de pénurie, une économie de concurrence, une économie de déficit, alors que dans le royaume de Dieu, c'est une économie d'abondance. Et puis, dernier point, eh bien, c'est l'identité de Jésus. Parce que qu'est-ce qui se passe ? À la vue du miracle, eh bien, ils veulent l'enlever pour le faire roi. Souvenez-vous, pendant la tentation de Jésus, comment se termine la tentation de Jésus ? Il est dit dans le texte, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Eh bien là, on a un moment favorable qui arrive. Parce que Jésus est en plein succès. Il peut se laisser griser par le succès. « Oh, j'ai été critiqué par les pharisiens, enfin ils sont en train de voir qui je suis !» Il aurait pu se laisser griser par le succès. Mais Jésus résiste à la tentation et il s'en va parce que Jésus n'est pas ici le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme qui doit mourir. Ce n'est pas le moment. Un jour, on l'a chanté tout à l'heure, toute langue fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais là, ce n'est pas encore venu. Pour résister à la tentation, eh bien, il va s'isoler, lui seul, dans la prière. Et c'est un exemple pour nous, parce que dans la victoire, on se laisse souvent nous griser, en tout cas moi, et parfois je me relâche. Alors que Jésus, là, il ne se relâche pas, il continue son ministère, il sait où il va, il sait qu'il est venu du Père, qu'il va retourner au Père et qu'il est là pour accomplir sa mission. Et c'est un vrai combat chez moi parce que ma vieille nature, ma nature orgueilleuse me pousse à profiter de ce moment. Et la Bible nous dit, ça peut être une tentation et le fait de s'isoler est une bonne chose. Voilà. Donc voilà ces 9 points que je voulais souligner de ce texte. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'applications pour nous. Ça nous montre que Jésus maîtrise le quotidien. Ça nous montre que Jésus, devant l'impossible, notre impossible, devient son possible à lui. Ça montre aussi que Jésus nous associe intimement, en tant que disciple, à tout ce qu'il fait. Ce n'est pas lui qui le fait, souvenez-vous, principe de subsidiarité, c'est donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus nous demande, devant l'impossible, bien sûr, souvent devant l'impossible, on dit, oui, ben, Seigneur, je t'en mets toute chose. Qui ne dit pas ça ? En fait, ce que Jésus dit, c'est, ok, tu me remets toute chose, mais tu as ta part à faire. Donnez-leur vous-même à manger. Il leur montre comment il faut faire. Et vous savez que dans la deuxième multiplication des pains, même situation, il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger, et les disciples, la deuxième fois, ils ne sauront pas faire non plus. Donc c'est très pédagogique pour nous. Ce n'est pas parce qu'on a entendu ce message que vous allez sortir et dire, super, rien n'est impossible à Dieu. Vous allez retomber, je vais retomber. Mais c'est pour ça que ces choses ont été écrites, pour nous rappeler que si nous croyons à qui est Jésus, nous pouvons faire l'impossible. Avec son aide, on a notre part à faire. Il fallait qu'il y ait un petit garçon qui ait 2 poissons, 5 pains. Il faut amener des choses à Jésus. Pas être comme les disciples qui ont gardé les 200 deniers, mais les amener à Jésus et il peut les multiplier. Donc c'est un travail en commun. C'est Jésus qui dirige tout, mais il nous délègue la possibilité de faire ça. Et le peu que j'ai, comme ce petit garçon, le peu que j'ai, je peux le mettre au service du Maître et il va le multiplier et il va le rendre disponible pour beaucoup d'autres personnes. Alors, je vous propose quelques messages clés à retenir. Jésus est vraiment le prophète qui doit venir, c'est le sauveur du monde. Si aujourd'hui quelqu'un ne connaît pas Jésus, eh bien ce signe lui permet de voir que Jésus est le Fils de Dieu. Et si nous, en tant que chrétiens, depuis 10 ans, 20 ans, 30, 50, 60 ans, si on est chrétien depuis longtemps, eh bien parfois nous serons confrontés, nous avons été confrontés à de l'impossible, Jésus peut le rendre possible. Et le troisième point, ce que je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai ? Quels sont, moi, mes 2 petits poissons, mes 5 petits pains que je peux mettre au service du Maître et que lui va utiliser avec sa grâce et sa puissance ? Voilà, je vous laisse sur ces réflexions. Merci.